Privilège de pouvoir introduire mon meilleur ami, mon cher Mathieu. Donc pour ceux qui nous rejoignent, juste savoir qu'on a grandi dans la même église avec Mathieu et ça fait plus de 20 ans qu'on est meilleur ami. Et je pense qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'implanter une église avec son meilleur ami et son épouse. Et c'est vraiment une grande, grande joie et quelque chose qui me touche énormément chez mon cher ami Mathieu, c'est sa persévérance. Vous savez, quand Mathieu a décidé quelque chose, il peut pleuvoir, neiger, faire du tonnerre, il a décidé quelque chose, et ben, il ira jusqu'au bout parce que c'est un homme de conviction et un homme de foi. Et c'est très beau parce que même des fois, je dis « Ah, mais t'es sûr, tout ça ?» Et souvent, il voit les choses rapidement, il a une vision globale et c'est magnifique parce que dans des temps de découragement ou quoi, on se rappelle ce que Dieu nous a dit. Et Mathieu est super pour ça, pour dire voilà, c'est ça que Dieu nous a dit et on marche vers cette vision. Alors mon ami, merci. Merci pour ta persévérance, merci pour ta force, pour cette sécurité que tu nous apportes. Et en tant que leader responsable avec nous de cette église, on veut vraiment t'honorer et te dire merci pour l'énergie, pour ce temps que tu passes. Vous savez, on ne se rend pas compte, mais Mathieu, au moins un jour, deux jours, trois jours par semaine, il prend du temps à écrire des mails, à prier, à vraiment se laisser toucher par le Saint-Esprit pour avoir des nouvelles stratégies du ciel. Et il est toujours plein d'idées à dire, ouais, et puis on préfère ci et faire ça. Et c'est extraordinaire l'énergie qu'il déploie pour que le royaume de Dieu se manifeste dans la région de la Drôme. Et vraiment, je pense qu'on peut se lever ensemble et l'honorer pour tout ce qu'il fait.
C'est après des présentations pareilles, on a l'impression qu'on va pouvoir déplacer les montagnes. Donc, merci mon ami, merci Olivier. C'est beau, c'est vrai que souvent quand... merci Elo, t'es chou. Souvent quand on parle de Montélimar, on était, comme Olivier vous l'a dit, en Angleterre et beaucoup de gens nous demandaient comment ça se passe à Montélimar, etc., à votre église. Donc, eh bien, je dis, mais c'est super et on vit de belles choses. Et aussi, on vit de belles choses parce qu'on a, je dis toujours, une dream team. On a vraiment une équipe de rêve. C'est une équipe de rêve qui a implanté cette église. Et aujourd'hui, ça a été rejoint par vous tous et vous faites aujourd'hui partie de l'équipe de rêve. Mais c'est vrai, quel privilège de pouvoir démarrer cette œuvre et de pouvoir aller dans les plans que Dieu a pour nous quand il y a ces relations à la base. Hier soir encore, on parlait avec des amis autour du repas et je disais, mais... parce que voilà, Olivier, mon ami, c'est même si l'église s'arrêtait pour X ou Y raison, c'est pas grave presque parce que la priorité c'est notre relation d'amitié. Et c'est pareil avec vous, les amis, et entre nous les uns les autres. Nos amitiés, nos relations sont plus importantes que des projets, des choses qu'on peut avoir en commun, où bien sûr Dieu nous envoie, et d'ailleurs ça ne va pas s'arrêter, loin de là. Mais au pire des cas, si, je sais pas moi, si il se trouve qu'on est nombreux maintenant, mais s'il y avait eu personne qui avait voulu nous rejoindre, c'est possible, on serait resté à 4 dans notre salon comme il y a 3 ans. Enfin, à 4, on avait 3 enfants à l'époque, nos deux couples, donc on était 7. Eh bien, moi, j'aurais dit, c'est pas grave, on s'est régalé, on a passé des bons temps entre amis dans la présence de Dieu. Et voilà, il se trouve que vous avez décidé de vous rajouter dans l'aventure, donc c'est encore mieux, donc merci les amis. Mais voilà, il faut vraiment le sens des priorités dans la vie, c'est important. Et voilà, donc en fait... on est vraiment ravis d'être là avec Olivier. Donc, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire Olivier, Mathieu, Olivier, Mathieu. Je vous rappelle, donc vraiment, encore une fois, cette église a démarré avec nous quatre, Élodie, Emmanuel, Olivier et moi. Et c'est vraiment important. Dieu nous parle beaucoup dans ce domaine en ce moment par rapport à qu'est-ce que c'est que d'être leader, qu'est-ce que c'est que d'ailleurs que ce soit dans l'église ou ailleurs, mais vraiment la place de l'homme et de la femme, que c'est en tant qu'homme et avec aussi en tant que femme qu'on représente Dieu. C'est ce que dit la Genèse, hein, c'est à son image, Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créa à son image. Et que ben voilà, si c'était que Mathieu et Olivier, et ben, il y aurait 50%. Ben déjà pour vous, mesdames, ce serait compliqué de vous y retrouver parfois dans certaines choses. Et puis on passerait à côté de 50% de ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Ça nous tient très, très, très à cœur. Et c'est pour ça, peut-être certains ont vu sur WhatsApp, j'ai essayé de partager quelques petits extraits de ce qu'on vivait en live à Bedford. Et il y avait ces deux femmes qui ont partagé hier matin. Voilà, donc pour vous expliquer, j'avais un message qui était prévu sur la culture de l'honneur. C'était le dernier message de notre série sur notre culture ici à Connect. Et en fait, ça me semblait totalement hors contexte. Je me suis dit, c'est pas grave, on fera la culture de l'honneur, on finira cette série une autre fois. Mais vraiment, avec Olivier, on avait à cœur de vous partager ce qu'on a vécu en Angleterre, parce que c'est pas que pour nous deux, c'est vraiment pour vous tous ici aussi. On veut vous partager tout ça. Et donc, notamment, il y avait ces deux femmes qui ont partagé hier, et waouh, quelle inspiration. La première, qui s'appelait Nikki, je crois, alors les Anglais disent gouvernante, en fait, en gros, c'est la directrice, voilà, d'une grande prison vers Birmingham, haute sécurité, et du coup, Dieu l'a appelée dans ce milieu-là. C'était pas du tout ça. Elle a été missionnaire avant, et elle s'est retrouvée à franchir un peu les obstacles pour arriver là, dans cette position. Et quel encouragement de voir le... Justement, Olivier parlait de stratégie du ciel, les stratégies des cieux du ciel qu'elle pouvait amener dans cette prison. Et bien sûr, il y a les prisonniers pour qui elle a un cœur, mais elle avait surtout, justement, on parlait de culture, envie d'amener cette culture du ciel, cette culture du royaume de Dieu dans l'équipe. Vous savez, je ne l'ai jamais été, mais être gardien de prison, je pense que c'est un métier parmi peut-être les plus difficiles. Et elle nous expliquait comment, par des petites actions, envoyer un bouquet de fleurs pour les funérailles des parents, de l'un des gardiens, comment cet homme, c'est des choses qui ne se font pas dans ce milieu, c'est un milieu particulier, le milieu castéral, et combien la vie de cet homme était transformée par l'amour de Dieu. Beaucoup d'exemples comme ça, et de voir comment une femme féminine, avec cette douceur, mais on sentait une fermeté, purée, on n'avait pas envie de lui causer des ennuis aussi, on sentait vraiment, il y avait Jésus en elle, quoi, par tout son amour, mais en même temps toute son autorité, toute la sécurité que Jésus peut amener. Donc incroyable. Et puis cette autre dame qui était un médecin généraliste et qui nous racontait comment elle voyait le miraculeux presque au quotidien parmi ses patients, parmi ses collègues de travail, les infirmières qui travaillaient avec elle. Elle nous a raconté des guérisons extraordinaires de gens, voilà, où elle avait peut-être essayé, merci Seigneur pour les médecins, merci Seigneur pour les médicaments. On croit bien sûr que Dieu utilise ça pour guérir, c'est pas des demi-guérisons, mais parfois on a beau, peut-être on peut prier avant, on peut aussi prier après, parfois on a beau avoir tout essayé, il y a des moments il ne reste plus que Jésus, quoi, quand tout espoir, et c'est vrai que je le vois aussi comme infirmier dans mon quotidien, il y a des fois on a beau avoir tout essayé, il n'y a plus qu'à crier à Dieu et à lui demander d'intervenir. Et elle nous racontait les miracles qu'elle avait vus, alors que simplement elle osait faire ce petit pas de courage et de proposer la prière. Elle nous racontait notamment l'histoire de cette jeune fille accro à la drogue, je ne sais plus quelle drogue c'était, mais en tout cas une drogue dure, qui était devenue anorexique, qui était devenue extrêmement maigre. Et comment, juste en mettant un CD de louange avec des chants qui parlent de libération que Jésus amène, cette fille, à peine rentrant dans le cabinet, s'était mise à pleurer, avait été touchée par ça. Et en fait, du coup, chaque fois qu'elle venait, elle mettait que des chansons sur ce même thème, que Dieu qui guérit, Dieu qui libère. Et cette fille, à chaque fois, et aujourd'hui, cette fille, voilà, mariée, qui a repris du poids, qui a bien sûr été délivrée de ses addictions, juste parce que voilà, ah, je vais mettre ce CD pour que Dieu touche cette personne. Merveilleux, merveilleux, merveilleux témoignage. Et voilà, du coup, aujourd'hui, je voulais juste vous partager quelques... J'ai encore un peu de temps pour ça. Vous faire un petit peu un résumé. Je me dis, purée, je mets sur WhatsApp et tout, ils doivent se dire, bon, ils sont bien gentils, Mathieu et Olivier, nous, on est là, il fait froid, on est peut-être, quoi que j'ai vu, que vous étiez régalés vendredi soir. Et d'ailleurs, à ce propos, un immense merci à tous ceux qui étaient impliqués. Enfin, je sais que plusieurs d'ici étaient là vendredi soir pour la soirée à ciel ouvert, qu'apparemment pas mal de monde est venu. Ça aussi, c'est vraiment énorme. Enfin, vous imaginez pas de voir que pour... en tant qu'équipe, de voir que peut-être deux parmi nous qui ont l'habitude d'être impliqués là-dedans s'en vont, mais que voilà, ça ne s'arrête pas, le service continue, l'adoration continue, les gens viennent, les gens sont touchés, et ça c'est beau, c'est un beau signe de croissance. Alors merci pour votre service, merci pour votre fidélité dans tout ça, et je pense que c'est des signes de vraiment de bonne santé de notre communauté. Waouh, qu'est-ce que c'est bon de partager Jésus tous ensemble. Eh bien, j'ai vraiment envie de prier pour commencer. Seigneur Jésus, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que, alors que nous étions loin de toi, alors que nous étions pécheurs, alors que nous ne méritons rien, par ton amour, tu as choisi de venir, Seigneur. Par ton amour, alors que nous étions misérables, tu as tendu la main vers nous. Tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as libérés. Tu nous as déchargés. Tu as ôté la honte qui était sur nous, Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes libres en toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que cette œuvre, tu la continues depuis l'éternité, tu l'as commencée et tu la continueras jusque dans l'éternité, Seigneur. Jusqu'au jour où il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de larmes, Seigneur Jésus, plus de douleurs. Et Seigneur, alors que l'on est encore dans cet intervalle, Seigneur, avant que tu reviennes, quel bonheur de te partager les uns avec les autres, un peu comme cette image du pain et du vin qu'on vient de partager Jésus ensemble. Tu es le centre de nos vies, tu es le centre de l'histoire, plus que de l'humanité, de l'univers, mais aussi particulièrement aujourd'hui dans cette salle à Montélimar, à chacun, tu es le centre de nos vies, tu es dans nos cœurs, tu habites en nous. Et Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Pas prendre ça pour acquis, si c'est acquis, si tu t'es donné sans retenir, mais on ne veut pas galvauder ça, on ne veut pas diminuer, Seigneur. On veut juste être reconnaissant envers toi. Sois béni, sois élevé, sois loué, sois adoré au milieu de nous. En ton nom, Jésus, amen. Et du coup, oui, il y a plusieurs semaines, j'ai vu cette publicité pour cette conférence passer. Et c'était une conférence en théorie pour vraiment des prophètes. Le titre « Sound of Glory », le son de la gloire, ou les sons de la gloire, c'est au pluriel. Et moi, j'aime énormément prophétiser, j'aime énormément donner des messages du cœur de Dieu pour les gens autour de moi, mais je ne me considérerai pas comme un prophète. Vous savez, il y a une différence entre le don et le ministère. Le ministère, c'est vraiment quand une personne incarne le don en elle-même, par qui elle est, par la manière, par son caractère, par la manière dont... Et moi, non, je suis peut-être un peu plus d'autres choses, mais un peu moins ça. Mais quand j'ai vu cette publicité, j'ai vu qui était l'orateur. Il avait écrit un bouquin qui m'avait vraiment impacté sur la prière. Et puis que j'ai vu qui allait venir conduire à la louange aussi, qui était invité pour ça. Je ne sais pas, j'ai senti qu'il fallait que j'aille à cette conférence. Et donc j'ai imploré ma femme de bien vouloir me laisser y aller. Ça faisait beaucoup. Là, on doit retourner en Angleterre dans un mois. Ça faisait beaucoup pour... avec les enfants, etc., pour s'organiser, mais elle a bien voulu. Je lui ai promis que je lui devais une super conférence dès que c'était possible. Mais et du coup, j'ai parlé de ça à Olivier, qui aussi a senti l'appel pour aller. Vous savez, moi aujourd'hui, franchement, je cours plus trop après les conférences. J'ai eu une époque de ma vie où j'aimais trop aller dans plein de conférences, vivre des choses et tout. Aujourd'hui, très honnêtement, je suis honnête avec vous, je me régale beaucoup plus ici à Montélimar, dans cette salle, que de prendre l'avion, machin. Depuis que j'ai des enfants, en plus, j'ai un peu peur de l'avion et tout. J'aime pas trop ça. Mais là, j'ai senti qu'il fallait qu'on y aille. Et du coup, on y est allé. Et après, on a vraiment compris pourquoi. Ça a vraiment été plus qu'une autre conférence. Ça a été vraiment un temps décisif pour nos vies, on le croit, mais aussi pour cette communauté. Parce que on y allait en notre nom propre, mais on y allait aussi en tant que membre de cette communauté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'honneur, j'ai dit, c'est important. Ne laissez pas tomber l'honneur. Honorez Dieu, honorez-vous vous-même et honorez vos amis. Mais on détaillera ça un autre jour. Et c'était génial de voir plein de gens. Il y a plein de gens d'ailleurs que vous connaissez qui étaient là, notamment à la conférence Cœur du Père qu'on a fait en novembre. Et juste, je voulais vous donner un petit témoignage comment Dieu est merveilleux, que j'ai entendu du coup ce week-end. C'est qu'il y a, du coup, je pense pas qu'il soit là, Raphaël. Ah, mais si, il est là, Raphaël. Tu me donnes la permission, Raphaël, de raconter ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Pendant la conférence du Cœur du Père, il y avait toute une équipe donc qui était venue de Bedford, et il y avait un jeune homme qui s'appelle Luc, grand costaud pour ceux qui se rappellent de lui, qui était là. Et c'était, je crois que c'était un de ses premiers voyages missionnaires comme ça, Et donc il passait par une période de sa vie où voilà, il était un peu à la croisée des chemins. Il savait donc lui venait pour nous bénir, hein, pour investir en nous. Mais alors qu'il est venu, il y a eu un moment où Raphaël Sarkis a eu l'opportunité de prier pour lui et de prophétiser sur lui, de parler, de vraiment recevoir quelque chose de la part de Dieu pour lui, un encouragement. Et c'était autour de sa carrière, sur le fait de devenir quelqu'un qui travaille le bois, etc. Alors que Luc n'était pas du tout dans ce domaine-là, loin de là. Et moi, je me rappelle de ça à l'époque, en novembre, mais j'avais complètement oublié. Et c'est Caroline, donc la femme de Simon, qui m'a dit, mais tu sais, Luc, cette conférence a été quelque chose de vraiment très fort pour lui. Sa vie a vraiment changé depuis qu'il est venu vous voir à Montélimar. Je dis, ah bon, et tout, super. Et ensuite, j'ai vu Luc, qui était tout content de nous retrouver avec Olivier. Et il m'a dit, écoute, oui, voilà, Raphaël a prophétisé sur moi. Et voilà, depuis, ma vie, en gros, a été transformée. J'ai décidé de m'engager dans cette carrière-là, de travailler le bois et tout. Alors, j'ai pas les détails du cursus qu'il a entamé, ou etc. Mais en tout cas, ça y est, il est en formation et il sent vraiment qu'il est à sa place. Et même moi, pour l'avoir vu à cette époque-là, et là, je voyais sur son visage, il y avait un épanouissement, une paix, une joie qui n'était pas là, ou du moins pas autant que la dernière fois. Et donc, merci Raphaël d'avoir été vraiment l'instrument de Dieu. Ouais, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. C'est pas que Raphaël est meilleur que les autres enfants. Je veux dire, voilà, comme on le dit souvent, il n'y a pas de Saint-Esprit junior. Les enfants ont le même Saint-Esprit que nous et Dieu les utilise. Dieu veut les utiliser. Dieu veut les attirer à lui pour les utiliser comme les parents, comme les grands-parents. Voilà, c'est quand le Saint-Esprit se répand, c'est sur toute chair. Toute chair. Jeune et moins jeune, ou jeune d'une manière différente. Donc ça m'a vachement encouragé, beaucoup, beaucoup encouragé. Donc je vais juste vous partager, il y a trois passages bibliques. En fait, on a eu six sessions, six réunions en gros, à chaque fois un bon temps de louange et un bon temps d'enseignement. Je vous dis, c'était pas évident non plus, quoi. Surtout hier avec Olivier, enfin, moi j'ai eu l'impression de prendre un coup de massue en pleine tête. On a eu des partages qui étaient extrêmement riches, mais aussi qui nous ont beaucoup remis en question, beaucoup challengés dans ce qu'on vivait. Parce que c'est humain, vous serez d'accord avec moi, on a toujours tendance à s'endormir un peu. On a beau avoir le feu pour Jésus, etc. Voilà, il y a aussi ce confort. En plus, dans notre société occidentale, c'est vrai que ben voilà, on a tous la chance d'avoir accès à plein de choses super. Mais parfois, ça peut être aussi quelque chose qui nous retient d'avancer et d'être touché toujours plus par le Seigneur. Et du coup, je voulais juste vous partager ces trois passages et deux, trois petites choses qui nous ont parlé à ce propos. Et donc le premier, si vous voulez ouvrir dans votre Bible, c'est Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13. Il n'y a pas forcément d'ordre à mon message et je suis sûr que Dieu trouvera le moyen de rendre ça vraiment ordonné pour vous, pour que vraiment vous puissiez mais noter les références, revenez là-dessus, que Dieu vous révèle à vous-même aussi par ces passages. Je pense que c'est pas rien, c'est pour vous aussi tout ça, tout ce qu'on a vécu ce week-end. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et il y a un mot qui est mentionné deux fois. C'est le mot espérance, le mot espoir. Et c'est vraiment incroyable comme l'espoir que Dieu donne. C'est vraiment, je vous parlais de cette fille droguée, anciennement droguée. L'espoir que Dieu nous offre, c'est vraiment quelque chose de vraiment très fort. Vous savez, l'espérance, ça peut paraître comme ça, quand même, un truc sympa, joli. Ouais, c'est plus que ça. C'est vraiment quelque chose qui c'est la force de l'espoir en Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation désespérée pour Dieu. Il n'y a aucune situation désespérée pour Dieu. Et je vous dis ça, les amis, vraiment, voilà, tu es là aujourd'hui. n'y a aucune situation désespérée. C'est des mots qu'on peut prononcer des fois. Mais peut-être c'est pour toi aujourd'hui, peut-être c'est pour un membre de ta famille, peut-être c'est pour un ami, peut-être c'est dans le cadre d'une maladie, peut-être c'est une dépression, peut-être c'est des problèmes financiers. Il n'y a aucune situation désespérée pour Dieu. Aucune. Aucune. Et il faut vraiment qu'on s'accroche à cet espoir. Cet espoir, c'est vraiment quelque chose que Jésus nous a donné pour nous, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Et un petit exemple, c'était, vous aurez, certains d'entre vous auront déjà entendu ce témoignage, du coup c'était pas ce week-end, mais une fois, juste pour vous dire vraiment la force et pas la violence, mais vous voyez, il y a quelque chose vraiment de fort. Quand je vous dis, des fois, Jésus, on prend un peu un coup d'amour, hein, mais dans la face, ça nous secoue. Dieu est capable vraiment de nous secouer de belles manières. Et je me rappelle une fois où il y avait mes beaux-parents qui étaient chez nous et où on passait un temps ensemble et où ils n'étaient pas bien. C'était une période où ils n'étaient pas bien. Alors c'est vraiment, c'est des gens qui aiment le Seigneur, qui ont vécu des choses extraordinaires et ils n'étaient pas bien. Et je suis sûr, on a passé Noël chacun dans nos familles peut-être. Où il y a souvent des moments comme ça où on est en famille et on perçoit des choses. Et à ce moment-là, ben, soit on dit ben, « oui, c'est la vie, ah mais oui, ça va aller mieux ». C'est vrai, on peut tous parfois avoir cette attitude-là. Mais ce jour-là, avec Emmanuel, on était, ils étaient vraiment pas bien, quoi. Et à un moment donné, j'ai senti comme une colère en moi monter. Parce que je les voyais tellement mal, je me disais, mais non, quoi, c'est pas possible. Vous savez, comme si je sentais que l'ennemi leur volait la joie que le Seigneur a pour eux, quoi. Et vraiment, physiquement, ils avaient leurs épaules qui étaient basses, le visage triste. Et pourtant, on parlait de tout, enfin, de plein de choses, mais je percevais ça. Et on en a parlé après coup avec Emmanuel, et du coup, on avait fait ce même constat tous les deux, quoi. Et du coup, de cette colère vraiment qui montait en moi par rapport à ça, je leur ai dit, écoutez, je vois que vous n'êtes pas bien et tout. Donc, on a un peu parlé de ça et tout. Je dis, bah, allez, j'ai vraiment à cœur de prier ensemble. Et c'est vrai que parfois, dans la famille, ce n'est pas évident, quoi. Même si on est tous chrétiens, il peut y avoir une petite gêne, une petite appréhension de, oh, parce que bah, voilà, on se connaît tellement et tout. Mais bon. Il faut aussi se laisser parfois conduire et bousculer par le Saint-Esprit. Et du coup, donc ma belle-mère, je ne vous ai pas dit, mais avait des gros problèmes cardiaques depuis des mois avant ça. Son cœur battait à 110, 120 battements par minute, je crois, constamment, sous traitement lourd. Son cœur ne ralentissait jamais. Et du coup, elle avait eu plusieurs rendez-vous et une chirurgie était programmée. Parce que bah, son cœur, au bout d'un moment, n'allait pas tenir le choc, quoi. Et elle avait vu le médecin, anesthésiste, chirurgien, et donc tout était programmé. Et voilà, donc ça, c'était une des choses. Et puis mon beau-père, c'était la fin de sa carrière professionnelle. Aujourd'hui, il est à la retraite et il était très fatigué, mais fatigué dans tous les sens du terme, quoi. Vraiment, il était pas bien. Et du coup, on a prié avec eux, on a proclamé le nom de Jésus sur ma belle-mère et sur mon beau-père avec Emmanuel. On a vraiment pris un temps où voilà, on a laissé un peu sortir cette colère et on a dit non, on s'est opposé à ça. Et donc voilà, la journée s'est terminée. Tout de suite, mon beau-père, voilà, après on est allé marcher, mais vraiment ça lui a fait du bien, on a pu échanger, et tout de suite il a senti quelque chose se produisait. Et pour commencer par lui, donc dans les jours qui ont suivi, il est retourné au travail, et les gens, ses collègues de travail, ont commencé à lui dire, écoute Yves, c'est fou, il y a vraiment quelque chose de différent chez toi, tu as l'air beaucoup mieux et tout. Et il s'est rendu compte qu'effectivement il se sentait beaucoup mieux. Il y avait comme un poids qui était parti de ses épaules, et il se sentait vraiment léger, il se sentait, il y avait une joie, un enthousiasme qui est revenu, quoi. Et waouh, c'était tellement extra d'entendre ce, et vraiment voilà, il nous a remercié, on a remercié le Seigneur ensemble. Et et pour ma chère belle-mère aussi, donc le lendemain, apparemment rien de se passer. Vous savez les amis, quand on prie, il ne se passe jamais rien. C'est notre tentation humainement, parce que parfois nos yeux ne voient pas un changement immédiat. Humainement, on se dit, bon, ben, il ne se passe rien. Mais ne prononçons pas ces mots-là, les amis. Ne prononçons pas ces... Il ne se passe jamais rien quand on prie. Il ne se passe jamais rien. La prière, c'est Dieu, c'est lui qui a la puissance. C'est lui qui entend notre prière. On est ses enfants. Il ne tourne jamais son regard comme ça. Non, il entend nos prières et il se passe toujours quelque chose, d'une manière ou d'une autre, dans l'instant. Mais il y a toujours quelque chose qui est activé quand on prie. Et le lendemain, apparemment rien. Mais le surlendemain, d'un coup... battements de cœur normaux qui reviennent d'un coup à la normale. Vous pouvez vous réjouir, les amis. Et donc, voilà, ma belle-mère interloquée et tout, donc elle laisse passer plusieurs jours, un jour passe, deux jours passent, trois jours passent, quatre jours passent, je ne sais plus combien de jours, son cœur battait complètement normalement. Et un jour, elle m'appelle et me dit « Écoute, Mathieu, j'ai décidé d'arrêter mon traitement. » Alors moi, en plus infirmier, tout ça, j'ai dit « Écoute, Monique, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ok, par la foi, je veux bien, mais c'est vrai que je me sentais un peu... Voilà, j'étais un peu inquiet de ce choix-là. Mais bon, je pouvais pas... Elle avait décidé, c'était comme ça. Donc, bon. Et du coup, elle est retournée voir son médecin et même son chirurgien qui devait l'opérer et deux semaines plus tard, quelque chose comme ça, et ils lui ont refait un électrocardiogramme qui était complètement normal. Et le chirurgien était hyper étonné, mais pas tant que ça, parce qu'il se trouve qu'il lui a dit, donc elle lui a raconté qu'elle avait reçu la prière, qu'on avait prié en famille et tout, et le chirurgien lui a dit, eh bien, écoutez, ça ne m'étonne pas plus que ça, moi aussi je crois en Dieu. Et le chirurgien a cru que Dieu l'avait guéri. Et du coup, amen, applaudissons le Seigneur. Et du coup, tout ça pour dire que l'espoir que Dieu nous donne, c'est vraiment quelque chose de fort. Ne laissons pas, si on perçoit ces choses-là, ne laissons pas le désespoir, ne laissons pas cet esprit de fatalité nous gagner, cet esprit de scepticisme, vous savez. Dieu est à l'œuvre, Dieu veut faire de grandes choses dans chacune de nos vies et au travers de chacun de nous. Dieu veut, ça c'est un exemple, mais tous les jours il y a des guérisons. Tous les jours, j'ai rencontré mon ami Andrew avec qui j'avais fait une formation à Bedford, donc quand on y était il y a quelques années, et il a passé 3 ans à Bethel, à une église qu'on aime beaucoup en Californie, et il faisait partie des chambres de guérison. Donc chaque samedi, il priait pour les malades. Des gens venaient, des centaines de personnes pour avoir été dans ces chambres de guérison venaient, et chaque samedi des miracles. Mais des miracles documentés, des miracles, voilà, vous pouvez trouver les témoignages sur le site internet. Et du coup, j'ai dit, ah ben super, ça tombe bien, j'ai mal aux pieds. Vous savez, en ce moment, je m'entraîne pour le marathon de Paris et j'ai changé de chaussures récemment. Et du coup, depuis quelques jours, j'avais super mal au pied gauche. Et ça m'embêtait parce que je voulais absolument courir, même en étant en Angleterre, pour continuer mon plan d'entraînement, mais j'avais vraiment mal. Et du coup, j'étais inquiet, je me suis dit, je pense que je ne vais pas pouvoir courir parce que c'est pas raisonnable, quoi, j'ai trop mal. Et j'ai dit, bah, écoute, Andrew, est-ce que ça te dérange J'ai sauté sur l'occasion qu'il me racontait les chambres de guérison. Est-ce que tu peux prier aujourd'hui, ici, maintenant? C'était pendant le repas de midi. Il me dit, mais ok, il était hyper enthousiaste. Donc, il a prié pour moi. Il me dit, tu sens quelque chose? Il dit, écoute, non, enfin, franchement, pas plus. J'ai dit, peut-être une petite amélioration. Il dit, allez, je reprie pour toi. Il a prié pour moi et... donc, je pour être vraiment transparent avec vous, je dirais pas que que j'ai 0% de douleur, mais ce que je dirais, c'est que le lendemain matin, donc hier matin, j'ai pu aller courir. J'ai couru longtemps, j'ai couru 1h20 dans la campagne, j'ai failli me perdre dans la campagne de Bedford, et aucun problème pour courir, quoi. Je pouvais avoir une foulée normale, je sentais légèrement quelque chose, mais rien, alors que la veille, je boitais, quoi. J'avais super mal. Donc merci Seigneur, quoi. Et je sais que ça va disparaître complètement. Et vous savez, pareil, j'étais aussi guéri de graves allergies quand j'étais enfant, quand on était dans la même église avec Olivier. Et souvent, des gens vont vous dire, oui, mais les allergies, tu sais, ça va, ça vient, c'est médical, c'est comme ça. Non, moi, depuis mon enfant, je me suis accroché au fait que Dieu m'avait guéri. Et parfois même, j'ai des petits grattements qui reviennent à droite, à gauche. Et bien, tout de suite, je proclame le nom de Jésus et les choses disparaissent instantanément. Accrochons-nous à l'espoir que Dieu nous donne. Et le verset dit bien aussi, par votre confiance en lui. Il nous donne toute sa joie, toute sa paix, par votre confiance en lui. Il faut vraiment qu'on fasse confiance au Seigneur. Je sais que c'est des paroles, voilà, qui... Oui, Mathieu, oui, je sais. Non, fais confiance au Seigneur. pour tous les domaines de ta vie, pour ta famille, pour tes amis. Fais confiance au Seigneur. J'ai beaucoup aimé cette parole dans ce message aussi qui disait l'endroit le plus sécur pour toi. Vous savez, des fois, on sent le Saint-Esprit nous dire d'aller là, de faire ci, de faire ça. Par exemple, quand Dieu nous a parlé pour implanter cette église, je vous avoue que voilà, ben non, enfin, oui, nous, peut-être, mais nous, c'était aussi avoir une famille, avoir des enfants, vraiment être bien, avoir une vie super et tout. Et d'un coup, il y a cette histoire d'implantation d'église qui nous est un peu tombée dessus. Parfois, notre tentation, ça peut être de dire ah, mais t'es sûr ? Attends, mais je vais aller voir quelqu'un qui va prophétiser sur moi pour être vraiment sûr, attends, mais je vais jeûner, je vais prier, je vais écouter. Non. Parfois, les amis, il faut juste obéir. Et quand tu sens que Dieu t'a parlé une fois, n'attends pas. Alors bon, des fois, c'est bien d'avoir des confirmations pour certaines grosses décisions, on est d'accord. Mais tout ça pour dire que l'endroit le plus sécur, l'endroit où tu seras le mieux, l'endroit où tu seras le plus en sécurité, c'est dans la volonté de Dieu. Pour toi. Et nous, franchement, on n'avait pas prévu tout ce qu'on vivrait aujourd'hui, de choix qu'on fait parfois dans notre vie, et bien découle plein d'autres événements qui se passent. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Ne soyons pas trop prudents, les amis. Vous savez, il y a vraiment une grande différence entre discernement et scepticisme. Et parfois, malheureusement, on a tendance à confondre les deux. Dieu nous donne sa sagesse. Mais le discernement et le scepticisme sont deux choses complètement différentes. Le scepticisme est conduit par la peur. La peur du regard de l'autre, la peur de « et si la personne n'est pas guérie ?» La peur. Le discernement, c'est vraiment une sagesse où il y a la paix de Dieu qui est là. Il y a la paix de Dieu qui est là et bien sûr c'est conditionné à la foi que Dieu va se manifester. Mais checkons nos cœurs, vérifions qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs quand on juge sur une chose ou une autre, qu'on ne soit pas dans le scepticisme mais dans le discernement. Des fois Dieu se manifeste, je vous promets là à cette conférence, bon maintenant j'ai l'habitude, mais parfois il y a des gens qui se roulent par terre en hurlant de rire. Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne juge pas ce que Dieu fait chez l'autre personne. Les signes, les miracles, les prodiges, ne soyons pas trop promptes à juger. Demandons à Dieu pour nous de nous toucher de la manière dont lui le veut. Parfois, ça sera d'une manière, dans un doux murmure. Parfois, ça sera dans le vent violent. Et parfois, ben oui, on sera écroulé de rire par terre parce que quand la joie du Seigneur descend, c'est pas la joie, c'est pas une petite joie comme ça de Black Carambar. C'est la joie du Seigneur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas retenir. Et moi, les amis, je vous le dis, moi qui suis plutôt de caractère, non, vous savez, moi je suis pas du genre à tomber dès que quelqu'un pose la main sur moi, loin de là. Et ce week-end, j'ai été ivre dans l'esprit comme jamais ça m'était arrivé de toute ma vie. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes sur votre chaise, vous n'êtes même pas, ouais, un bon temps de louange, c'est super et tout, mais vous ne prévoyez pas. Et d'un coup, il se passe quelque chose, il y a un poids de la gloire de Dieu qui vient sur vous. Et c'est, la bonté du Dieu vous envahit. Et, c'est oui, parfois, je pense que même Dieu nous autorise quelque part à freiner ça. Et à dire non, mais là, non, je... Voilà, bon, j'avance. J'avance. Recalibrage. S'il y a un mot qui m'a vraiment marqué, percuté ce coup de massue que je vous disais pendant ce week-end, c'est recalibrage. Parce que comme je vous dis, on peut facilement avoir tendance à s'endormir un petit peu dans notre confort, dans des belles choses que Dieu fait aussi. Mais voilà, rappelons-nous les amis, on est en mission. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous personnellement et aussi ensemble. Et il y a vraiment ce recalibrage que Dieu veut faire. Vous savez, on parlait de bâtiment, c'est une histoire de bâtiment, c'est pas qu'une histoire de bâtiment. C'est aussi l'histoire du réveil à Montélimar. Et Dieu veut recalibrer les choses pour notre communauté. Peut-être qu'aujourd'hui, on est une communauté sympa, où on se régale, où on mange ensemble, où on vit de belles choses avec Dieu, on voit des miracles. C'est énorme. Mais ne diminuons pas nos attentes. Il y a cette phrase qui a été prononcée, je ne sais plus si c'était dans ce message ou dans un autre, mais... Que nos attentes soient à la hauteur de la résurrection de Jésus. Est-ce que tes attentes aujourd'hui sont à la hauteur de la résurrection de Jésus ? Jésus était mort et le troisième jour, il est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Et cette puissance de résurrection, Jésus nous l'a transmise. Et du coup, cette puissance de résurrection, elle est en toi. Quand Dieu habite en toi, la puissance de la résurrection de Christ est en toi. Et Dieu veut t'utiliser pour ressusciter des choses partout autour de toi. Et Dieu veut utiliser cette église pour ressusciter des choses dans cette ville, dans cette région. Mais ça ne sera pas nous seuls. ce sera aussi dans les relations avec nos églises sœurs, avec nos amis chrétiens de toutes les communautés de Montélimar. Ne diminuons pas nos attentes, les amis. 2 Corinthiens 2, 14, je ne peux que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Jésus, la connaissance du Sauveur. La gloire de Dieu, les amis, va remplir toute la terre. La gloire de Dieu, c'est ça. La fin de l'histoire, c'est les noces de l'agneau. C'est la célébration éternelle pour l'éternité. Les amis, ayons une eschatologie, ayons une vision du futur, ayons une révélation de la fin des temps qui nous pousse aujourd'hui à faire des choix courageux. Les amis, l'histoire se termine bien. Jésus va régner pour l'éternité et pour l'éternité, nous serons avec lui, auprès de lui, dans la salle du trône de grâce. C'est ça la fin de l'histoire, les amis, c'est pas autre chose. Oui, il y aura des difficultés et il y en a aujourd'hui. Oui, on souffrira, mais c'est pas ça la fin de l'histoire. Jésus, il avait en vue la joie qui était réservée. C'est pour ça qu'il a enduré la croix jusqu'à y mourir. Mais parce qu'il avait en vue, il y a ce verset qui dit ça, vous connaissez ce verset, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et nous les amis, il y a une joie éternelle, des délices éternels, comme dit David, à la droite de Dieu. C'est ça notre futur, c'est ça le futur de cette communauté, c'est ça le futur de cette ville. C'est ça qui doit conduire les choix, les actions que je fais aujourd'hui. Je ne peux que remercier Dieu, il nous associe toujours au cortège triomphal de Christ. Jésus est roi, les amis. Jésus est roi et rien n'anéantira son royaume. Rien ne l'arrêtera. Rien ne l'arrêtera. Et nous faisons partie de ce cortège royal. Jésus ouvre la voie et nous, en le suivant, nous sommes dans ce cortège royal. Vous savez, quand ils ont construit en 1800, je ne sais combien, l'arc de triomphe, c'est vraiment, il faudrait presque que nous aussi, on construise des arcs de triomphe à la gloire de Jésus. Parce qu'on est vraiment dans ce cortège, comme le dit 2 Corinthiens, triomphal du Christ. Par notre union et répandre ce parfum, les amis. Répandre ce parfum. On répand par nos... Par comment on est, par... Des fois, c'est difficile de faire des choses pour Dieu ou d'avoir la bonne attitude ou de prier, de voir des miracles, etc. Mais vous avez remarqué, c'est beaucoup moins difficile quand on a passé du temps avec Jésus. Quand on a été avec Jésus, en général, même, ça se voit sur notre visage. On rayonne. Et là, d'un coup, bizarrement, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Même de bien éduquer mes enfants, d'être beaucoup plus patient, d'être, vous savez, le fruit de l'esprit. Quand on est avec Jésus, et ce parfum, il sort de nous aussi et contamine les autres. Plusieurs fois, ça m'est arrivé qu'on nous dise, alors qu'on était ici ou là, mais vous avez l'air super heureux, quoi. Vous souriez tout le temps. Il y a quelque chose qui se diffuse quand on a été avec Jésus. Ça serait pas génial, les amis, que alors qu'on arrive, là c'est l'après-midi, mais dans le futur le matin, à l'église sur le trottoir, les gens voient nos visages, et disent pétard, et ne puissent pas s'empêcher que de tourner et de rentrer dans l'allée pour venir ici, parce qu'ils disent purée, eux ont l'air super heureux, je sais pas où ils vont, mais j'ai envie d'y aller aussi. J'ai entendu ce témoignage une fois de quelqu'un qui s'est converti comme ça, où il voyait des chrétiens se rendre à l'église et il disait, je sais pas où vont ces gens, mais ils ont l'air tous si heureux, je vais les suivre. Et il s'est retrouvé dans l'église et il a donné sa vie à Christ. Ça serait pas génial si on voyait ça, les amis? Et notre ami Sean, quand il a partagé sur ça, il nous a vraiment... J'aime être avec les Américains parce qu'il y a cet enthousiasme qui est là. Et souvent, en tant que Français ou en tant qu'Européen, oui, mais tu comprends, c'est les Américains, ils sont là. Non, les amis, franchement, ne disons pas ça. C'est pas... Là, pour le coup, je trouve qu'on est plus souvent dans le scepticisme que dans le discernement. Il y a un appel particulier pour cette nation. Bien sûr, ils ne sont pas parfaits, bien sûr. Voilà, mais... Quel bonheur d'avoir l'enthousiasme de Jésus comme ça dans une personne qui, en plus, avec ce qu'il nous a partagé, c'était vraiment pas du faux, du fabriqué. Il y avait vraiment quelque chose de profond. Et vous savez, il nous a raconté l'histoire de ce missionnaire américain qui récemment a été tué alors qu'il est allé sur cette île perdue dans l'océan Pacifique pour atteindre ce groupe non atteint par l'évangile sur cette île où personne n'était jamais allé. On savait qu'il y avait des gens là parce que je crois il y a eu un tremblement de terre il y a une dizaine d'années, quelque chose, et ils ont pris des photos d'avion, et du coup ils ont vu qu'il y avait des personnes, mais c'était genre une poignée de personnes, 20, 30, 40 personnes, pas plus, sur cet îlot. Et du coup, c'est vrai que, et moi je vous confesse, quand j'ai vu, je sais pas, vous avez vu ça dans la presse, cette histoire? Et moi je vous promets, je vous le dis honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai eu cette réaction-là. Et pardon Seigneur. J'ai dit, mais pff, ces Américains, voilà, pourquoi il est allé là? Est-ce que vraiment c'était si sage que ça d'aller seul sur cet îlot? Il se trouve que Sean, qui conduisait la louange ce week-end, connaissait ce gars, avait, dans leur parcours, ils s'étaient croisés. C'était un jeune gars de à peine 30 ans, même pas peut-être. Et c'est vrai que les médias, on fait passer ça, les Américains qui veulent coloniser le monde avec Jésus, etc. Mais cet homme a vraiment, il a étudié, Dieu lui a parlé sur ce groupe de personnes. Il a étudié, plusieurs fois il a fait des voyages dans les îles aux alentours qui étaient pour le coup atteintes. Il s'est renseigné. Et Sean nous a lu, et je ne l'ai pas là, mais j'aimerais bien vous le lire une prochaine fois, la dernière page du journal que ce gars, comment il s'appelait ? John. Ce John avait écrit juste avant qu'il savait qu'il voulait le tuer parce qu'une première fois sur la plage, ils avaient essayé de le tuer. Il était parti en courant, s'était caché dans la forêt et il priait, il disait « Seigneur, est-ce que je dois essayer de m'échapper ? Est-ce que je dois machin et tout ?» Et non, le Seigneur lui a dit « Vas-y ». Et il nous a lu donc la dernière page de son journal que ce John a écrit et... Quelle puissance, les amis, quelle puissance de voir, ok, je sais ce qui peut peut-être m'arriver, mais je suis à deux doigts de voir la conversion de tout ce groupe de personnes qui n'a jamais entendu ton évangile. Et il y est allé. Et bien sûr, vous connaissez à la fin de l'histoire, ce jeune homme est décédé. Mais comme disait Sean, quel encouragement de savoir que parce que cet homme a fait ça, chaque jour qui passe depuis cet événement, ce groupe de personnes, il y a une seule chose dans leur tête, un seul mot. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cet homme est venu ? Pourquoi est-ce qu'il est venu ? Pourquoi est-ce que ce gars qu'on ne connaît pas a débarqué sur notre île ? Pourquoi est-ce qu'il a volontairement accepté d'être qu'on le tue ? Pourquoi ? Et voilà, moi j'ai la conviction que Dieu va toucher ces gens. Et priez pour eux, franchement, si vous avez à cœur. La prière du juste a une grande efficacité. Mais Sean nous a vraiment partagé ça pour nous secouer un peu, parce que voilà, encore une fois, il y a ce confort et tout. Et il faut qu'on y aille, quoi, les amis. Moi, j'ai vraiment envie, là, qu'on organise des voyages missionnaires, peut-être dans des pays francophones, au Maghreb ou à droite à gauche. Sean nous a encouragé vraiment à aller salir nos pieds pour l'évangile. Vous savez, il parlait même de l'évangile qui est salissant. Parce que l'évangile qui t'amène dans des endroits où peut-être naturellement tu n'irais pas. Mais qu'est-ce que c'est beau, j'ai eu l'opportunité de faire un voyage missionnaire en Turquie récemment, prier pour des réfugiés d'Irak, d'Iran. Qu'est-ce que c'est beau de voir, et souvent d'ailleurs on en retire beaucoup plus que ce qu'on va donner, mais osons salir. Qu'est-ce que c'était génial la dernière fois avec Kat quand on est allé dans le centre-ville de Montélimar, de pouvoir s'agenouiller avec des gens qui n'ont pas de maison fixe, et pouvoir proposer la prière, et même des gens qui ne croient pas en Dieu, accepter la prière et de voir l'amour de Dieu toucher ces personnes. Il faut qu'on fasse ça plus, les amis. Oui, ça va nous bousculer, oui, il va falloir s'organiser, mais Dieu veut faire une œuvre merveilleuse et il veut nous utiliser pour répandre son parfum. Et les trois mots que Sean avait pour nous pour 2019, donc je vous les transmets pour que ça soit pour nous aussi, sans limite. Ne limitons pas ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Il y a une dame, je vous dis ça au passage, une dame qui est venue pour la conférence, qui venait des Pays-Bas, qui nous a dit « Je sens vraiment que votre église, dans la prochaine année, va atteindre 200 personnes. » Bon, écoutez, on n'a pas prié ou quoi, elle avait à cœur, et son visage est vraiment touché par Dieu, elle avait à cœur de nous dire ça. Et j'ai dit « Écoute, merci, gloire à Dieu, on ne sait pas, est-ce que c'est que, parlant des adultes, est-ce que c'est les enfants ? Si c'est le cas, bon, peut-être qu'il va y avoir énormément de descendance, peut-être certaines vont être annoncées, je ne sais pas. Non, mais je sais, on ne sait pas, mais ne limitons pas ce que Dieu veut faire. Peut-être que dans pas longtemps, il faudra faire deux cultes parce que voilà, on n'aura plus assez de place ici. Peut-être que même il faudra acheter un autre bâtiment, j'en sais rien. Pourquoi on limiterait ? Est-ce que franchement, un bâtiment, il est extraordinaire ce bâtiment, on est reconnaissant à Dieu de pouvoir se réunir ici, mais est-ce que c'est franchement le plus important, les amis ? On a des amis en Algérie, il y a des églises qui sont implantées dans la forêt, où tous les jours il y a des conversions, il y a des baptêmes, il y a des choses. Est-ce que c'est important le bâtiment ? Bon, on est quand même content de l'avoir, merci Seigneur. Sans limite. Deuxième, c'est wild, sauvage. Vraiment, laissons-le. Vous savez, comme je parlais tout à l'heure, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, les amis. Laissons sortir ce cri. Vous savez, Jésus est appelé le lion de Juda. Laissons sortir ce rugissement. Et d'ailleurs, je crois que c'est Olivier qui a eu ça comme parole prophétique pour lui, mais je pense que c'est pour notre communauté aussi. Laissons sortir ce rugissement du Seigneur en nous. Je ne veux pas dire que vous allez aller rugir, crier sur vos collègues de bureau demain ou à l'école ou quoi, mais laissons Dieu s'exprimer, laissons Dieu bouillonner en nous. Et dernièrement, la joie, soyons joyeux. Franchement les amis, on devrait vraiment être les gens les plus heureux sur Terre. Il y avait ce bouquin que j'avais lu récemment dont c'était le titre, et c'est vrai, on devrait vraiment être les gens les plus heureux sur Terre. On est libre. On est libre pour l'éternité. On va être avec Dieu sur ses genoux, dans la salle du trône. Moi, je m'imagine toujours ça. Je m'imagine ça comme être à Annecy pour le reste de ma vie. Vous savez, le lac d'Annecy, les montagnes, la neige. Moi, pour moi, c'est quand je m'imagine le paradis, c'est ça que je pense. Ça, avec en plus une louange continue comme ça, qui est un peu dans les montagnes, qui n'a pas besoin de sono ou quoi. La louange sort des rochers. Pour moi, c'est ça. Pour l'éternité, les amis. Mais les amis, rêvons avec Dieu, rêvons avec Dieu, rêvons avec Dieu. Fermons les yeux et laissons-le nous emmener là où il veut nous emmener. Je suis sûr que c'est dans la Bible, je suis sûr. Quelque part. Et je vais arrêter en fait. Je vous garde le reste pour la prochaine fois. Je vous finis juste par ça. Je voulais vous lire ce verset, Ésaïe 43, verset 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une nouvelle chose qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Et vous savez, les amis, je vais finir par ça, et j'aimerais vraiment qu'on finisse en priant. Il s'est passé plein de choses dans chacune de nos vies. Peu importe l'âge qu'on a, il s'est passé plein de choses, des choses difficiles et des choses heureuses. Et toutes ces choses-là nous ont amenés ici aujourd'hui, ensemble. Ne laissons pas ce passé dicter notre futur. Aussi difficile qu'il ait pu être, aussi extraordinaire qu'il ait pu être, Dieu a plus pour toi aujourd'hui. Et vous savez, des fois, voilà, nous ici par exemple, dans notre région de Montélimar, ben, il y a eu ce réveil huguenot, Isabeau Vincent, la bergère de Soue, des villages, des villes entières, ça a contaminé l'Europe entière, ce réveil, ce mouvement des petits prophètes. C'était extraordinaire, l'un des plus grands réveils de l'histoire. Mais les amis, abreuvons-nous de ça, mais ne nous cantonnons pas à ce qui s'est passé avant. Dieu veut faire quelque chose de nouveau aujourd'hui avec nous. Et peut-être même que ce sera plus grand que ce qui s'est passé à cette époque-là. Ce n'est pas qu'on veut comparer, qu'on veut dire que nous, on est meilleurs aujourd'hui en 2019. Ce n'est pas ça du tout. Mais Dieu, c'est le Dieu, voilà, il n'a pas de limite, de l'impossible. Et peut-être qu'il y a aussi des choses dans ton passé qui ont été difficiles. Et que c'est comme si ça te retenait. Tu sentais que dans ton cœur, ça te retient. Parce que tu dis, mais non, moi j'ai vécu ça, et inconsciemment, ben, ça m'empêche de rentrer dans ce que Dieu a pour moi maintenant. Les amis, non. Comme on l'a dit, l'espoir de Dieu est puissant, fort, indestructible. Dieu a des projets merveilleux pour toi. Il a préparé des œuvres merveilleuses d'avance pour toi, pour ta famille. Et rien ne l'empêchera d'amener tout ça à son accomplissement. Rien, rien. Ni la mort, ni la vie, rien. L'ennemi est vaincu, les amis. Et l'ennemi, les œuvres de l'ennemi dans ta vie sont vaincues par le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever, les amis ?